Nous commençons aujourd'hui une série d'études sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la nature et de la nécessité de la prière. Et dans les semaines à venir, Dieu voulant, nous allons parler de l'accès à Dieu dans la prière, de la méthode de prière, des types de prière, des sortes de prière, du travail de Dieu et la prière, le lien entre les deux, des difficultés dans la prière et des récompenses de la prière. Et pour cela, nous allons lire deux passages dans les évangiles. D'abord dans Luc chapitre 11 et ensuite Matthieu chapitre 6. Luc chapitre 11 et nous lisons donc les deux premiers versets. Jésus priait un jour et en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean, il parle de Jean-Baptiste, « comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites. » Et nous allons nous arrêter là. Matthieu chapitre 6. Après, dans cette lecture, vous savez qu'il y a le Notre Père qui suit. Et vous allez remarquer que dans un autre endroit, dans un autre contexte, un autre jour, Jésus va enseigner la même prière. Cela n'est pas étonnant, parce que si vous avez été dans une église chrétienne pendant quelque temps, vous avez vu que le pasteur se répète. Bien sûr, si Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples en privé un jour, ce n'est pas étonnant que devant la foule, il enseigne la même prière modèle. Parce qu'à moins qu'il ait oublié quelque chose ou qu'il ait eu tort la première fois avec ses disciples, ce qu'il avait enseigné la première fois était un bon enseignement qui valait la peine de répéter. Et c'est ce que Jésus va faire, mais dans un autre contexte et avec aussi quelques autres soucis. Il enseigne sur la prière. Et donc, nous allons lire à partir du verset 5 pour avoir le contexte. Donc, vous allez voir que Jésus doit contrer une fausse vue sur la prière pratiquée par les pharisiens dans leur hypocrisie. Mais au milieu de tout ça, Jésus nous enseigne des choses très positives et positivement importantes. Verset 5 de Matthieu 6. « Lorsque vous priez, » il dit cette fois à la foule, « ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La récompense de la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et là s'arrête la deuxième lecture. Nous avons seulement deux choses à méditer ce matin, à essayer de saisir et intégrer dans notre vie, la première leçon sur la prière et la deuxième. La première est bien sûr, qu'est-ce que la prière? C'est la nature de la prière. Et la deuxième leçon sur la prière, logiquement, c'est pourquoi faut-il prier? C'est la nécessité de la prière. Et ces deux choses, nous voulons les voir. Aucune église n'est plus spirituelle que sa vie de prière. Aucune église, aucun chrétien individuel n'a d'impact plus grand que sa vie de prière. Vous ne pouvez pas monter plus haut que le niveau de votre vie de prière. Un homme si nous devons calculer sa grandeur spirituelle, un homme ou une femme est ce qu'elle est ou il est à genoux, et pas plus. Et nous voulons donc prendre quelques semaines pour parler de la prière, et ma prière pour cette série est d'abord pour moi, ensuite pour vous. Mais nous avons besoin sans doute de nous repentir et de supplier le Seigneur que nous devenions plus des hommes et des femmes de prière. Je ne vois rien de plus urgent, franchement, pour cette Église, pour une Église quelconque et pour notre génération de chrétiens. En côtoyant les hommes morts, chose que je fais souvent dans les livres, je constate qu'il y a une grande différence entre l'Église d'aujourd'hui, qu'elle soit réformée, évangélique, tout ce que vous voulez, et l'Église des autres générations. Et une des plus grandes différences se situe là, dans la vie de prière. Et la différence est énorme. Donc, que le Seigneur vienne à notre aide. La première leçon sur la prière, c'est la leçon sur sa nature. Qu'est-ce que la prière? En Luc 11, et c'est là que je suis, Luc 11, nous voyons que Jésus priait. Jésus priait un jour. Il n'était pas du tout rare ou inhabituel que les disciples, que les douze voient Jésus faire cela. Au contraire, ils le voyaient toujours en train de prier. Et quand il se levait et il ne savait pas où il était, et il fallait aller le chercher, le plus souvent, il le trouvait en train de prier. Avant de choisir les douze disciples, il a passé une nuit entière en priant. Et non pas en dormant. Il priait devant eux, comme ce jour-là. Il était à un jet de pierre, sans doute, d'eux. Quand il est revenu vers eux, un des disciples a dit ce qui était vraiment sur son cœur. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean-Baptiste a aussi enseigné à ses disciples. Nous voyons ici que les disciples ont devant eux une incarnation de la prière. Et ils veulent savoir comment pouvons-nous devenir des hommes qui ont ce contact, cette relation avec Dieu, cette vie de prière comme toi. Ils sentent leurs besoins profonds. Et j'espère qu'aujourd'hui, au début de cette série, vous avez ce cri de cœur en vous qui dit « Seigneur, enseigne-moi à prier. Enrôlez-moi dans ton école de prière. » Et il va falloir rester dans cette école toute la vie. C'est un apprentissage. Et seul le Maître peut faire de nous des hommes et des femmes de prière. Mais, donc, nous voulons, dans ce premier temps, tout simplement définir ce que c'est que la prière. Nous ayons cette soif aussi de savoir qu'est-ce que c'est et comment le faire. Alors, je vais être simple. Dans le catéchisme des enfants, on pose la question « qu'est-ce que la prière ?» et on répond « prier, c'est parler avec Dieu ». Ça, c'est assez simple pour tout le monde, même le premier rang, ici, n'est-ce pas, hein, les filles? Prier, c'est parler avec Dieu. Mais arrêtons-nous un moment sur cela. Prier, c'est s'entretenir avec Dieu. C'est une rencontre de deux personnes, je vais le dire comme ça, même si Dieu, en fait, il est trois personnes, mais je vais parler comme ça. Prier, c'est rencontrer, c'est faire une rencontre en présence de Dieu. Dans le texte de Matthieu 6, si vous avez envie, vous pouvez revenir là. Nous le voyons assez bien. Ce serait pas mal que vous l'ayez sur les yeux. C'est plus fort quand vous le voyez pour vous-même. Donc, en Matthieu 6, et à partir du verset 6, Jésus dit ceci. Et il est en train de définir la prière dans un sens. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit. Donc pour Jésus, la prière, c'est aller rencontrer Dieu. Il est là. Priez ton Père qui est là, qui voit. Et sous-entendu, qui entend. C'est ça la prière. Maintenant, vous savez que si deux personnes vont se connaître, la seule manière que ça puisse se faire entre personnes, c'est la communication. C'est l'échange mutuel. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'ils soient en présence et il faut qu'ils s'expriment l'un à l'autre. S'il va y avoir une relation d'intimité, en tout cas. Vous êtes dans un bus tous les jours pour aller au travail, et tous les jours, vous êtes, ou souvent au moins, vous êtes à quelques centimètres d'une même personne. Vous avez mémorisé sa tête, vous connaissez ses habits, parfois il est à quelques mètres de vous, parfois il est presque contre vous, lorsque tout le monde est pressé dans la foule. Mais malgré le fait que vous soyez ensemble, souvent, vous êtes de complets étrangers l'un pour l'autre. Pourquoi? Si vous passez tant de temps avec lui. Vous ne le connaissez aucunement, il ne vous connaît pas. Qu'est-ce qui manque? Vous ne vous êtes pas parlé. C'est tout simplement cela. Parce que la seule manière dont je peux me faire connaître, c'est de m'exprimer. Je dois m'exprimer, je dois dire, je dois communiquer mes vœux, mes pensées, mes soucis, mes questions, mes plaintes quand il est sur mon pied. Et comme cela, il commence à savoir ce qui est à l'intérieur de ce corps qu'il voit aussi lui tous les jours dans le bus. Et il faut qu'il s'exprime à moi, parce que je vois son corps, mais je ne le connais pas lui-même. Mais quand il parle, il questionne, il explique, il se plaint, il ordonne peut-être, quoi qu'il se soit, alors je commence à savoir qui il est. Et c'est ça la prière. C'est une rencontre où Dieu parle, Dieu lui-même parle à son enfant, et l'enfant lui parle. Je voudrais donc vous donner quelques versets. Écoutez bien ces versets et vous verrez ce que je veux dire. Jacques chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu. Il parle de chrétiens un peu rétrogradés, ce qu'ils doivent faire pour revenir à l'intimité avec Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour moi, depuis des années et des années, c'est le texte par excellence sur la prière. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est mutuel, n'est-ce pas? C'est mutuel. La prière, c'est lorsque je m'approche de Dieu, non pas physiquement, parce que je suis toujours avec lui, comme dans le bus. Mais quand je m'approche de lui relationnellement, en m'exprimant, en lui parlant, en entrant en communication avec lui, et dès que les deux personnes dans le bus commencent à parler, il y a une dynamique complètement nouvelle qui s'installe. Ils ne sont pas plus proches physiquement l'un de l'autre, mais il y a quelque chose de complètement différent qui arrive entre les deux. Et c'est ça la prière. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je vous donne trois versets de plus et puis une deuxième illustration. Le psaume 143. Fais-moi dès le matin, parce que le psalmiste décrit sa vie de prière matinale, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Le langage en français signifie habituel, dès le matin, c'est-à-dire tous les matins je fais ça. Je viens auprès de Dieu pour entendre, pour qu'il s'exprime à moi, pour que je connaisse quelque chose de nouveau de sa bonté, parce qu'il m'a fait comprendre, voir et entendre. Comment entendre à travers sa parole. Dieu parle. Un verset que j'ai lu 1000 fois, un jour saute des pages, me frappe, me saisit, me remplit de joie ou de crainte. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est là s'est approché de moi et il a parlé. Parfois, il me parle de ma conscience. Je deviens conscient d'un péché. Dans le silence, j'attends devant lui, j'écoute, parce que je crois qu'il parle. Et je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête dans ma vie? Et Dieu parle. Parfois, il parle. Souvent, il parle. Ou bien, il utilise ma mémoire. Parfois devant lui, dans la tranquillité du lieu secret où c'est lui et moi. Et une fois que j'y entre dans le nom de Jésus, ce lieu devient un lieu sacré. Parce que quand je m'approche de lui, il s'approche de moi et il me rappelle. D'une vérité biblique auquel je ne pensais pas du tout. Et bon, ça vient. Comme solution d'un problème, il me parle. Voilà la prière. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Dieu guide. Ésaïe, chapitre 50 et verset 4. Ici, c'est un passage au sujet du Messie qui devait venir, et il décrit sa vie de prière. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il y a une habitude de se mettre à l'écoute de l'Éternel Dieu comme un disciple devant son maître. Dieu éveille mon oreille. Mais il faut qu'il y ait de la communication de moi à lui aussi. C'est pour cela que dans le psaume 5 que nous avons lu tout à l'heure, Éternel, le matin, habituellement, sous-entendu, le matin, tu entendras ma voix, le matin je me tendrai vers toi et je regarderai. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas dire des prières. Oui, il faut que je dise mes prières. Ça n'a aucun lien avec la prière réelle. Ce n'est pas faire quelque chose tout seul dans un coin. La prière, c'est une rencontre où il y a échange. Maintenant, un autre problème. Un jour, je parlais avec un jeune chrétien, très consacré, un meneur dans le groupe des jeunes où j'étais à l'époque. Et cette personne m'a énormément surpris en me disant que dans son culte personnel le matin, cette personne ne priait pas. Cette personne ne parlait pas à Dieu. Mais plutôt, cette personne écrivait ses prières. Je lui ai dit, tu vis une vie chrétienne sans prière. Cette personne était un peu frustrée avec moi, mais non, c'est ma manière de prier. J'ai dit non, ce n'est pas prier. Ce qui fait de la prière, c'est justement que c'est un échange direct en présence. Il y a toute une différence entre le fait de prendre mon cabinet, composer un numéro et laisser un message au répondeur et raccrocher, ou d'avoir la personne. N'est-ce pas? La dynamique est complètement différente. Il y a des formes de communication indirecte, les lettres, les emails, les répondeurs, mais la prière n'est pas ça. Si Dieu n'est pas là, ou si tu agis comme si Dieu n'est pas là, tu n'as pas prié. Imaginez ceci. Je suis dans une chambre, une pièce avec ma femme. Au lieu de tourner vers elle et lui parler, j'écris ça et je le laisse sur le lit pour qu'elle le ramasse quand elle veut. Maintenant, imaginez que je ne fais que comme ça avec elle. Quelle sorte de relation aurais-je avec elle? Je n'aurai aucune relation directe. Elle pourrait être au Canada. Pour autant que... N'est-ce pas? Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre et prie ton Père qui est dans ce lieu. Parle-lui, parce qu'il est là, et parce que s'il est là, on doit agir comme s'il est là, et on lui parle directement. Il y a quelque chose de complètement différent qui vient quand, dans la foi que Dieu est là, j'ouvre ma bouche et je lui dis, sachant qu'il m'écoute, « Oh, mon Dieu, je voudrais te dire. » L'application de ce premier point, avant d'attaquer le deuxième et dernier, c'est simplement que penser n'est pas prier. Penser une chose, penser à un besoin, ce n'est pas le prier. Prier, c'est le dire à Dieu en confiance qu'il est là et qu'il entend. Et si prier, c'est comme ça, négliger la prière, c'est négliger Dieu. Négliger la prière équivaut à négliger Dieu lui-même. Imaginez encore qu'avec votre colocataire ou votre époux, que vous passez plusieurs jours sans lui parler. Vous n'allez pas dire tout simplement « j'ai négligé la communication ». Vous avez négligé la personne, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle est là. Mais pas un seul mot ne passe entre vous et lui. Négliger de communiquer avec Dieu, c'est négliger d'entretenir une relation avec lui. Il y a des gens qui pensent que Dieu est comme une idée. Et je suis d'accord que si vous négligez une idée, c'est pas grave. Je sais que depuis plusieurs jours, je n'ai pas pensé aux théories de Pythagore. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas eu cela dans ma tête. Et vous savez, la théorie de Pythagore n'a pas pleuré. Parce que la théorie de Pythagore est une idée. Mais si je néglige de parler avec mon Dieu, il est contristé. Il est attristé. Il est attristé. Parce qu'il est une personne. Et il aime son enfant. cette communication mutuelle entre Dieu, et nous le verrons dans les semaines à venir, mais cette communication avec Dieu prend plusieurs aspects, comme toute relation personnelle et toute communication personnelle. Il y a l'adoration. Quand je vois qu'il est, j'ai envie de le louer, de le bénir pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Les actions de grâce, j'ai envie de lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait, parce que c'est toi qui l'as fait, je le sais. Il y a la confession, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait tort, je t'ai offensé. Il y a la requête, Seigneur, veuille agir dans cette situation. Et dans la requête, ça va de une requête toute gentille jusqu'à une lutte, comme Jacob avec l'ange de l'Éternel. « Je ne vais pas te lâcher, Seigneur, à moins que tu me bénisses. » Et c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça, pour des raisons sages. Et il y a l'écoute. Mais tout cela, nous verrons. Nous terminons avec la deuxième leçon sur la prière. Nous voyons que la prière est une rencontre et un échange de communication mutuelle entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas dire ses prières. Que Dieu soit là ou non. La deuxième leçon, la nécessité de la prière, se voit fort bien dans la question, dans la demande des disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Car tout chrétien sent son besoin de savoir prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et tout chrétien sent qu'il a vraiment besoin d'apprendre à mieux prier. Je pense qu'il y a trois raisons principales pour lesquelles nous avons besoin. La prière est une nécessité pour trois raisons. La première raison est liée à ce que je viens de vous dire, simplement que Dieu nous a fait pour le connaître. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits donc pour une relation personnelle avec quelqu'un. Et il faut donc cet échange. Donc, vous savez que Jésus dit « La vie éternelle, c'est te connaître, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Et puisque vous avez été créé pour une relation personnelle avec Dieu, rien que la proximité avec Dieu ne peut satisfaire ton cœur. Je suis 100% certain qu'il n'y a personne dans cette pièce qui ne peut avoir un épanouissement profond dans la vie sans une relation avec l'éternel Dieu. Et son amour et sa bonté incomparable. À moins de le connaître, c'est impossible. Et pour cela, vous avez besoin de contact. Donc, vous avez besoin de prière. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Je veux être dans ta présence. La prière est le seul moyen de satisfaire à votre soif la plus grande de connaître Dieu. Mais la prière est aussi le seul moyen que Dieu puisse satisfaire son envie. Parce que c'est son envie aussi qu'il y ait une relation d'intimité entre vous et lui. Jésus, un jour, dit à la femme samaritaine ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. » Ça, c'est formidable. Dieu te cherche. Il cherche la relation. Il t'aime. Rien ne peut lui satisfaire si vous ne venez pas à lui, si vous ne le rencontrez pas, si ça ne devient pas une habitude. Et quelle glorieuse chose, n'est-ce pas? Nous pouvons dire que, en fait, nous avons besoin de prier, mais nous avons besoin de prier tous les jours. Je veux dire, pas simplement comme ci et comme là, quand je fais autre chose, mais comme Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu. Ce moment de recueil, de recueillement, où moi je suis avec mon Dieu et il vient vers moi. Nous avons besoin de ce moment quotidien parce que nous sommes nécessiteux et nous avons beaucoup de choses à dire et à demander à Dieu tous les jours. C'est comme le manger et le boire selon la Bible. Les enseignants chrétiens ont souvent dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Ou la prière, c'est la nourriture de l'âme. Alors, dites-moi, est-ce que c'est vous qui devez décider si vous allez manger, si vous mangez tous les jours ou non? Non, vous devez vous plier aux exigences de votre corps. Il vous faut manger quotidiennement. Parce que vous avez besoin de ce moyen de se nourrir, de vous nourrir, de vous fortifier. Et sur le plan spirituel, la Bible dit que quotidiennement, vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. La manne durait seulement un jour, n'est-ce pas? On ne pouvait pas amasser pour deux ou trois jours. La prière est comme ça. La prière d'hier vous a fait du bien, mais la prière d'hier ne peut pas vous fortifier pour aujourd'hui. C'est un grand problème. Et c'est pour cela que nous voyons que David priait 7 fois par jour. Daniel se mettait à part pour prier 3 fois par jour. Paul dit qu'il prie nuit et jour. Nuit et jour. Le psaume 143, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » Le psaume 5, « Le matin, tu entendras ma voix. » Tout cela nous raconte que toujours le peuple de Dieu a une habitude de prier quotidiennement. Et même la prière du Seigneur, lorsqu'il dit « Ferme ta porte », c'est un acte quotidien. Parce que quand tu ouvres la bouche, si tu pries la prière qu'il dit de prier derrière cette porte fermée, c'est le Notre Père qui dit « Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. » Donc si tu veux manger demain, il faut prier demain. Proverbe 8 « Et maintenant mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes lois. » C'est la sagesse qui parle. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Nos nécessités, normalement, doivent nous amener à prier tous les jours. Et aussi, nos louanges doivent nous amener à le faire. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. Nous avons de quoi demander à Dieu, nous avons de quoi remercier Dieu tous les jours. Nous avons de quoi écouter Dieu, parce que Dieu a des choses à nous dire tous les jours. J'en suis complètement sûr. Complètement sûr. Il veut nous révéler sa sagesse, se montrer à nous. Il a envie de nous rappeler de sa bonté envers nous, de son amour, tous les jours. Et pour cela, nous avons besoin d'être là. Donc, nous avons besoin de prier. Parce que aucune possibilité d'avoir une relation personnelle sans la prière. Deuxièmement, pour ma force spirituelle, je viens de vous l'expliquer, pour le bien-être de ma santé spirituelle, j'ai besoin de prier tous les jours comme je mange tous les jours. Troisième raison, et je finis avec cela, nous avons besoin de prier parce que Dieu nous appelle à le servir dans l'accomplissement d'une tâche surnaturelle. Il y a des choses que Dieu vous appelle à faire qui demandent une puissance du ciel lui-même. Il est impossible que ce voisin vienne du royaume des ténèbres au royaume des lumières sans qu'il y ait une action du ciel. Et ça ne va pas se faire sans le demander. Demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, dit Jacques. Et cela, on verra plus tard. Mais la prière est aussi le moyen par lequel nous touchons le bord du vêtement de Jésus et nous recevons cette puissance pour aussi aider d'autres personnes. Nous avons lu dans le culte ce texte en Marc que Pascal vous a lu, parce que vous avez vu que dans le cas de ce pauvre enfant possédé, les disciples n'ont rien pu faire. Et ils ont demandé, mais pourquoi avons-nous été incapables d'avoir un impact efficace et puissant dans la vie de cet enfant? Et Jésus dit, cette sorte ne sort que par la prière. Un seul moyen. Un seul moyen. Je voudrais vous raconter une histoire vraie, parce que je l'ai entendue de la personne qui l'a vécue. Je l'ai entendue plus d'une fois. Et il s'agit d'une histoire de mon ami Martin Holt, qui est pasteur en Afrique du Sud, et qui a prêché il y a quelques années au camp de Pâques en Allemagne. Alors, chaque fois que je vois Martin, presque la première phrase qui sort de sa bouche, c'est « David, j'ai prié pour toi tous les jours depuis qu'on s'est vu la dernière fois. » Et je sais que d'après ses dires, ça fait au moins 10 ans qu'il prie pour moi tous les jours. Et sa liste de prières est longue, parce que je l'ai entendu dire la même chose à d'autres. Il se lève à 4 heures chaque matin pour prier. Et il considère que son travail principal, le business principal de sa vie, c'est de prier. C'est de prier Dieu. Et il a raconté cette histoire qui s'est passée dans sa vie lorsqu'il était jeune pasteur en 1970. Il a été envoyé par sa dénomination dans une ville de mine. On minait le cuivre, je crois. On travaille dans les mines pour implanter une église. Il est arrivé, donc il y avait un petit noyau là de 12 personnes. Mais il s'est vite rendu compte qu'il y avait du péché dans ce petite église naissante, de graves péchés. Il y avait des tensions entre deux groupes dans l'église et de l'amertume, des jalousies, une situation vraiment contentieuse. Lui et sa femme se sont dit, bon, on va essayer de... Ils ont essayé de parler avec les uns et les autres, rien à faire. Et ils ont dit, bon, je vais commencer le ministère, je vais leur prêcher la parole de Dieu en espérant que la parole de Dieu va donc les changer. Et donc, pendant des mois et des mois et des mois, ils faisaient ainsi. Aucun changement. Finalement, il a dit qu'il a fait un appel téléphonique à longue distance dans un autre pays à un pasteur qu'il respectait pour dire « J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'ai envie de quitter le ministère chrétien, de quitter le pastorat et de dire je suis incapable de faire cela. » Tellement la tension et la situation de ce petit groupe était malheureuse et horrible et têtue. Donc il a appelé ce pasteur en disant, il avoue lui-même, que le pasteur allait trouver un moyen de le convaincre de ne pas faire ce qu'il voulait faire. Il a parlé et peu après, il y avait une série de rencontres dans l'église parce que chaque année, Martin Holt invitait un prédicateur à venir pour prêcher une série de messages le week-end de Pentecôte, en commençant le mercredi et allant jusqu'à dimanche. Cette année-là, il devait venir un homme qui était connu en Afrique du Sud, particulièrement comme un homme de prière. Alors, il est venu, il a prêché le mercredi soir. Ça s'est bien passé. C'était un prédicateur extrêmement... extrêmement... Il avait une onction dans sa prédication qui était connue dans le pays. Donc, ça s'est bien passé. Mais le deuxième soir, quand il a prêché, il peinait. C'était très, très évident et très inhabituel pour lui. Et il se voyait dans l'assemblée des visages. Martin a dit que c'était comme si des couteaux sortaient des yeux des gens. Ils étaient fâchés avec le prédicateur. Et ils ne voulaient pas écouter. Alors, Martin s'est confié au prédicateur et a dit qu'il y avait ce problème dans l'église de deux groupes, de deux factions qui se haïssaient. En rentrant à la maison, le pasteur a dit à Martin, nous devons prier pour cela. Ils sont allés dans son bureau et ils se sont mis à genoux. Et Martin dit que lui, il a prié le premier. Rendez-vous compte, c'est le soir après le culte. Il a dit, ils ont commencé à prier à 9h le soir. Martin a dit, je suppose que j'ai prié pendant 3 minutes. 3 minutes. Et puis le pasteur a commencé à prier. Il a prié 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1h, 1h15, 1h30. Et c'était juste avant 11h, donc 2 heures de prière sans s'arrêter. Cet homme, dit Martin, il assiégeait le trône de Dieu. Il prenait des bouts de passages bibliques pour montrer à Dieu sa propre écriture en disant « Dieu, tu as dit !» Il citait la Genèse, il citait les psaumes, il prenait un passage dans le Nouveau Testament et il criait à Dieu. À quelques minutes avant, 11h le soir, il y avait quelqu'un qui a frappé à la porte du bureau. C'était la femme de Martin. Il y a eu un coup de téléphone à 11h. Ce qui ne se fait pas en Afrique du Sud, on ne s'appelle pas à 11h le soir. Donc il savait qu'il y avait quelque chose. Et sa femme lui a dit que tel couple, donc un des couples dans une des factions de l'église, a appelé en demandant « Est-ce que tu peux venir nous voir tout de suite ?» Ils se sont levés de leurs genoux et le pasteur qui priait a dit tout simplement « Dieu a entendu, allons-y. » Ils sont allés, ils ont retrouvé 6 personnes présentes, 6 membres de l'église, toute la faction gauche. Et ils ont dit « nous nous sommes rendus compte que nous avons péché contre Dieu, contre le pasteur et contre les autres de l'église. Et nous avons envie de nous repentir. » Le lendemain, soir, lors de la prédication, il y a eu la première conversion. Et Martin dit que pendant 18 mois, il y a eu un temps de fruits spirituels comme il n'a jamais vu avant ou depuis. Il a dit qu'il y a eu quelqu'un qui s'est converti presque toutes les semaines pendant 18 mois. Et ils ont ajouté des dizaines et des dizaines de personnes à l'église qui sont devenues chrétiens. Dieu est venu dans cette situation. La deuxième histoire que je voulais vous rencontrer est plus courte. Mais Ichabod Spencer était un pasteur dans la ville de New York dans le 19e siècle, renommé. Il a écrit ce livre, renommé pour son travail pastoral très assidu. Il allait tous les jours dans les voisinages, rendre visite, témoigner, évangéliser les gens dans sa paroisse, parce que c'était sa paroisse. Et à l'époque, tout le monde était considéré comme une partie de sa charge spirituelle. Tout le monde dans ce secteur de la ville. Donc il avait le droit d'aller parler avec les gens aisément, sans problème. Et il y est passé des heures. Il a rempli, je crois, presque 20 gros volumes des récits de ses rencontres et des centaines de gens qu'il a amenés au Seigneur à travers ses rencontres. Il était particulièrement doué. Il a aussi vécu plusieurs saisons de réveil spirituel. Mais il dit que dans ses volumes, il notait ce qui se passait dans ses rencontres et ses conversations. Très intéressant. Mais il dit, un jour, une femme âgée, membre de son église, qui était une femme vraiment pieuse, l'a vue dans le voisinage et l'a arrêtée. Et donc, elle semblait soucieuse de la santé spirituelle de l'église et a dit, « Est-ce qu'il y a des jeunes qui se convertissent, pasteur, en ce moment ?» Et donc, un autre jour, même chose, il passe, elle l'appelle dans la maison, et elle dit Je t'ai demandé d'entrer, pasteur, parce que je voudrais te dire qu'un réveil spirituel arrive. Comment est-ce que tu sais cela? Nous allons avoir un réveil ici, avant que l'année ne se termine. Mais comment le sais-tu? Oh là là, ne pensez pas que je me prends pour un des favoris du Seigneur, comme si j'étais inspiré, rien de la sorte. Mais j'ai la foi, et j'ai des yeux, et j'ai des oreilles, et je crois dans la prière. Peut-être que tu me crois trop certaine, mais je te dis, un réveil arrive. Et je ne le sais pas par miracle. Je ne suis pas meilleur que les autres gens ou plus proche à Dieu. Mais depuis un bon moment, tous les jours quand je suis dans mon jardin, j'entends ce vieux diacre. Elle pointait le doigt vers la maison d'à côté. J'entends ce vieux diacre dans la prière, dans sa chambre, où il pense que personne ne l'entend. La fenêtre est ouverte, juste un peu de distance de mon jardin, et je l'entends prier tous les jours. Il n'est pas capable de quitter sa maison beaucoup, parce que tu sais qu'il n'a plus qu'une jambe. Mais s'il ne peut pas travailler, il peut prier, et ses prières seront exaucées. Je suis sûr qu'un réveil vient, et je ne serai pas surpris si certains de ses enfants à lui seront convertis. Je ne suis pas aussi folle que de penser que je suis prophète ou de penser que je connais les secrets du Seigneur. Je ne suis pas fanatique, mais souviens-toi que je t'ai dit, un réveil vient. Dieu exauce la prière, tu verras. Et il dit, un réveil est venu. Avant qu'une année s'écoule depuis ce moment, plus d'une centaine de personnes dans cette assemblée ont professé la conversion. Et parmi eux, un fils et une fille de ce vieux diacre, homme de prière, et le petit-fils de cette femme qui croyait dans la prière. Voilà. Nous avons besoin de prier, parce que c'est par la prière que Dieu accomplit ses prodiges. Je m'arrête là. La prière, c'est une rencontre, mais c'est une rencontre avec Dieu. Nous avons besoin de prier pour notre force spirituelle, pour entretenir la relation avec Dieu et pour pouvoir aider d'autres à connaître le Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à prier.